אוקיי, דוד המלך, ונק, גוליאט. Bien sûr, il y a une grande victoire pour le peuple d'Israël qui en découle. Et lorsque les Juifs reviennent du combat, alors les femmes sortent avec des tambourins, se mettent à chanter. Elles chantent « Shaul Balafav ve David ve Ribavotav ». Shaul avec ses milliers, les milliers de morts qu'a fait Shaul, et David avec ses dizaines de milliers. Shaul entend ça et il dit quoi ? À David, à moi, on me donne des milliers, à David, des dizaines de milliers. Rentre la maladie numéro 1 de l'histoire. La jalousie. Pourquoi lui, oui, moi, pas. Et dès ce jour, Shaoul, qui est un tzaddik. Lorsque, le jour avant sa mort, Shaoul, pour finir, va être tué, lui et ses enfants, dans une bataille avec les Philistins. Le jour avant sa mort, il sait qu'il doit partir au combat, il a très peur. Alors il va chez une femme qui est un médium et fait remonter l'âme de Shmuel à Navi. Il se cache parce que le roi a puni de mort tous les médiums. Il dit interdit de faire du médium, de parler avec les morts. Donc tous les médiums se cachaient. Et lui, quand il a besoin, alors il est allé, il s'est caché en incognito et fait monter le médium, fait monter Shmuel pour savoir qu'est-ce qui se passe demain. La femme, quand elle voit Shmuel monter, elle hurle, elle dit « Tu es le roi !» Comment ça se fait? Elle peut pas savoir qui est le roi. Elle dit « Parce que tous les hommes, quand ils montent, quand je fais remonter d'en bas, hein, du monde des morts, ils montent avec leurs pieds en premier. Que pour les rois, ils montent avec la tête en premier. » Et là, Shmuel est monté avec la tête en premier. « J'ai compris que tu es le roi. » Je te ferai rien du tout, mais dis-moi qu'est-ce qu'il dit. Shmuel est furieux. « Comment tu me fais monter maintenant de où je suis, de ma place dans le monde des morts, dans le paradis. » Shmuel a eu très peur qu'on l'amène pour le jugement dernier. Alors il a pris avec lui Moshe Rabbeinu. Que Moshe puisse témoigner que Shmuel a vraiment fait tout à droit comme il fallait. Tellement il avait peur, tellement nous devons avoir peur du jugement. Shmuel qui était un tzaddik, parfait. Alors il dit à Shaoul, au roi Shaoul, « Toi, tu es demain avec moi. » C'est-à-dire que tu as fini ton rôle sur terre, tu viens ici dans Olam Haba. On déduit Chazal, t'es avec moi, où je suis. Je suis où, moi, Shmuel, au paradis, sans péché. Donc, Shaoul était vraiment un grand sadique. Preuve en est qu'il a été choisi pour être le roi d'Israël. C'est pas n'importe qui peut devenir le roi d'Israël. Mais néanmoins, cette maladie terrible qui est la jalousie, qui est, comme je l'ai déjà dit ici, qui est la maladie numéro 1 de l'histoire. Le serpent originel était jaloux de Dieu. Il voit comme Adam et Ève vivent sympathiquement ensemble, il veut aussi s'approprier Ève, alors il fait du lachon hara. Après Caïn et Hevel, Caïn est jaloux de Hevel, il tue Hevel. On voit un exemple terrible. Il faut savoir que ces choses-là, si elles concernaient ces hommes-là, nous concernent nous à beaucoup plus forte raison. Que personne ici ne croit qu'il n'est pas jaloux. Parce qu'on n'a pas encore, on ne l'a pas enquiquiné là dans le... On n'est pas allé l'embêter. Dieu nous laisse un peu trop tranquille parce qu'il sait qu'on est... De toute façon, on tomberait. Alors, mieux vaut pas nous mettre trop en épreuve. Et quand ça arrive dans la vie et ça arrive, ça va que nous sommes des malades et qu'il faut se travailler. Arriver à ne pas être jaloux du tout, c'est très difficile. Mais au moins, pas faire des actes qui sont une conséquence de cette jalousie. Tiens, je suis malade. Ok, malade, donc je n'agis pas. Comment il est celui-là? Toi, tu es jaloux de lui. C'est un type bien. Tu peux dire oui, mais... Ne dis pas mais. Au moins, soit jaloux qu'à l'intérieur. Si on peut arriver à ne pas être jaloux, à comprendre que lui, il a son job sur terre, et moi, j'ai le mien, et tout dépend de Dieu. Comme dit la Gemara dans Traité Yoma, elle dit, c'est ma page 20 ou 21, elle dit, à ta place, on te mettra, en ton nom, on t'appellera, et une royauté ne touche pas la royauté voisine, si même d'un cheveu. Alors, ne t'en fais pas. Ce que tu dois avoir dans la vie, tu l'auras. Personne ne te prend rien. Personne ne peut te prendre une chose que Dieu t'a destinée. Ni ta place, ni ton nom, ni ton honneur, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton argent, ni rien du tout. Tout ce qui te revient, tu le recevras. Personne ne peut rien faire contre toi. Tout vient de Dieu. Alors pourquoi tu as des soucis? Pourquoi lui et pas moi? C'est quoi pourquoi lui et pas moi? C'est enfantin. Mais c'est un gros panneau dans lequel tout le monde tombe. L'exemple donc que je voulais citer, c'était Yoram ben Navat. Yoram ben Navat, ce sera un descendant de Shlomo, c'est lui qui va faire le schisme. Le schisme qui va aller créer un nouveau royaume, le royaume d'Israël, il y aura le royaume de Juda ici avec le temple, il va créer un autre temple, il va mettre là-bas de la voie d'Azara, de l'idolâtrie, et c'était un grand, 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 grand sage d'Israël, Yerovam ben Nevat. Et Chazal nous dit que Dieu lui a dit, fais tchouva, rétracte-toi, reviens dans la bonne voie. Et moi, Dieu, et toi, Yoram ben Nevat, et Ben Ishaï, le fils de Ishaï, donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Yoram ben Nevat pose la question, qui sera en premier? Qui sera en premier? D'abord, Dieu lui a dit, moi, toi, et Ben Ishaï. Donc toi, t'es avant Ben Ishaï. Il voulait l'entendre, il voulait souligner. Répète-le, j'ai mal entendu. Alors Dieu lui dit, ok, bah alors Ben Ishaï est avant toi. Des gens posent la question, tu baisses le niveau. Ben Ishaï est avant toi. David sera avant toi. Alors Ben Ishaï a dit, si c'est comme ça, je veux pas. Il est devenu le plus grand faiseur de péchés de l'histoire, qui a fait faire au peuple juif le plus de péchés. Pourquoi? Comment je peux supporter d'être derrière Ben Ishaï? Tu vas au paradis, puis devant toi sans cesse. C'est insupportable. Insupportable. Comment vous avez quelqu'un d'être en concurrence avec lui, il est devant toi toujours, pour l'éternité. Tu deviens dingue. Vous comprenez que c'est malade? C'est malade. Shaoul tombe dans le panneau et veut tuer David. Alors, un tzaddik qui est jaloux, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je dois le tuer parce que je veux prendre sa place. Non, il habille ça avec des arguments valables. Mourab et Malchut, il veut tuer le roi. La Lacha dit que quelqu'un veut tuer le roi, donc il est passible de mort. On peut même songer juger, on peut le tuer, etc. Chacun, lorsqu'il veut faire un acte qui est mauvais, il aura des alibis. On dit que l'Etserara, il connaît la chasse par cœur. L'Etserara, il connaît toute la loi juive par cœur. C'est toujours quand il trouve un bon argument pour lui, il sait te citer une citation comme ça de Chazal, de Lagmara, une preuve que dans ce cas-là, bien sûr que c'est permis d'aller faire la grande Avera, de tuer. Ou de parler de la Shonara. On peut tuer avec un poignard, on peut tuer encore plus avec la Shonara, avec une parole. Tu peux tuer quelqu'un. Fini, terminé. Fini. Comment celui-là? J'ai rien dit. Et c'est fini, tu as peut-être... il avait une bonne place, il n'aura plus cette place à cause de toi maintenant. Alors quoi à cause de toi? Je viens de dire il y a quelques secondes que personne ne peut rien me faire. C'est vrai. C'est vrai. Si Dieu veut que j'ai une place, je l'aurai. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent en mal, j'aurai cette place. Si Dieu veut. Si Dieu ne veut pas que j'ai la place, qu'est-ce qui se passe? Le type qui voulait m'embaucher se renseigne chez le parleur de la Shonara. Le parleur de la Shonara dit une chose qui est mauvaise pour moi, je ne reçois pas ma place. Moi, je tourne dans le panneau idiot que je dis, c'est à cause de lui. C'est faux. Dieu a voulu. Lui n'était que l'intermédiaire. Il était l'envoyé de Dieu pour que je n'ai pas cette place. Mais lui, ayant le libre arbitre de oui ou non parler à la Shonara, et il a parlé sur moi mal, il sera jugé. C'est-à-dire que Dieu voulait que je ne reçoive pas la place. Pour cela, il fallait qu'il y ait une case libre. Quelqu'un, maintenant, on cherche quelqu'un qui va faire la vera grave de la Shonara, et en cela... arrêter toute la parnassa, tout le gagne-pain d'un homme et sa famille. La Shonara grave. Il cherche quelqu'un qui déjà, il a une tendance à mal parler, qui est jaloux, qui m'aime pas, qui n'arrive pas à retenir ses pulsions négatives. On le met maintenant en épreuve. Est-ce qu'il va faire tchouva, il va dire, mais il n'y a aucun problème, il est très bien. Ou bien non, il va faire à la Shonara, soi-disant comme il faut. Il a une épreuve. Dieu est en situation d'épreuve. Il rate, s'il réussit, il réussit. Dieu arrivera à ses fins par... en mettant quelqu'un d'autre dans la case. Mais si maintenant, la personne elle a raté son épreuve, alors, par le biais de cette personne, moi, donc la personne qui devait perdre sa place, perd sa place. Mais lui, celui qui a parlé, est responsable. Mais moi, je n'ai rien à faire qu'il soit responsable, c'est pas mon affaire. Moi, je m'occupe avec Dieu. Je n'ai pas d'histoire avec lui, avec Dieu. Personne ne peut me piquer quoi que ce soit. Shaoul tombe dans le panneau, il veut tuer David. Et David s'enfuit. Il ira se cacher dans le désert de Judée, il ira à En-Gedi. Un jour, il se cache, et 3000 hommes avec Shaoul sont là, ils vont attraper David Ameler. Et sur chaque partie que j'ai, il y a des télims, je ne vais pas tous les lire maintenant, télims qui parlent comment il se cache dans la grotte à En-Gedi, et une fois comment il est dans le désert de Judée, il dit à Dieu, je suis affamé, assoiffé dans le désert, et on me poursuit, sauve-moi. Et chaque fois, Dieu le sauve à la dernière minute. Là, les 3000 hommes arrivent pour attraper David, et ça y est, ils sentent que c'est fini. À la dernière seconde, vient un émissaire qui dit à Shaoul, les Philistins sont en conquête, ils sont en train de conquérir le pays, toute l'armée part, ils lèvent le camp et ils partent se battre contre les Philistins. À la dernière seconde, David est sauvé. David va écrire bien sûr un télim. Toutes ces histoires que je vous raconte, tous les télim, c'est l'histoire du roi David. Il va écrire le télim suivant. Kouftet Zain, 116. J'aime que l'Éternel écoute ma voix, mes supplications, qu'il incline son oreille vers moi alors que je l'invoque chaque jour de ma vie. Les liens de la mort m'avaient enveloppé. Les angoisses du Sheol, Sheol c'est le monde des morts, m'avaient étreint. J'avais éprouvé détresse et douleur, mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. De grâce, Seigneur, sauve mon âme. Clément l'Éternel est juste, notre Dieu est compatissant. L'Éternel protège les simples, j'étais abaissé, il m'a porté secours. Reviens, ô mon âme, à ta quiétude, car l'Éternel te comble de ses bienfaits. Oh oui, tu as préservé mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je circulerai devant le Seigneur dans la terre des vivants, je vais rester vivant. Je suis plein de foi quand je parle, si humilié que je puisse être. Pourtant, j'avais dit dans ma précipitation, quand j'étais poursuivi maintenant par Shaoul et ses soldats, j'étais prêt à dire, je ne comprends pas. Shmuel, le prophète, m'a sacré, je vais devenir le roi d'Israël. Comment est-ce que je peux mourir? Et j'ai vu que Shmuel s'est trompé. C'était dans 2 secondes encore, on me tuait, je finissais la vie. Plus ni roi, ni rien du tout. Donc Shmuel s'est trompé. Shmuel s'est trompé, même le grand prophète s'est trompé. Alors qu'est-ce que je l'avais dit dans ma précipitation? Tout dans l'homme est trompeur. Même Shmuel peut se tromper. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés pour moi? Et je vois que malgré tout, Dieu était tellement bon pour moi. Je lèverai la coupe du salut et proclamerai le nom de l'Éternel. Mes vœux, je les acquitterai envers l'Éternel à la face de tout son peuple. Etc, etc. Je vous laisse la suite. Tehilim 116. Avec David, se crée autour de lui une équipe de quelques centaines de juifs qui sont la bande à David. Et David, il est dans le désert, il est dans les montagnes, et il va avec sa bande comme ça. Et durant des mois, il va protéger, lui et sa bande, les nombreux troupeaux d'un riche propriétaire de troupeaux qui s'appelait Naval à Carmeli, dans le Carmel. Naval, le Carmeli qui vient de la région du Carmel. Et un beau jour, c'est la veille de Rosh Hashanah, et on a besoin d'un peu d'aliments pour la fête. Et Naval est en train justement de faire la tonte de ses nombreuses brebis. Alors David envoie des émissaires, que, en reconnaissance de toute la protection que nous avons faite durant des mois à tout troupeau, qu'aucun troupeau a été dévoré par les loups, etc., que donne-nous un peu de nourriture, moi et ma bande, pour la fête de Rosh Hashanah. Naval dit, c'est qui ce David dont vous me parlez? Ouais, il y a beaucoup de serviteurs qui comme ça se révoltent contre leur maître, parce que David s'est révolté contre le roi. Ces esclaves-là qui se révoltent, c'est Khatsouf, insolent, il ne donne rien du tout. Les émissaires reviennent vers David lui disant, il t'a traité d'insolent. Comme ça? Ok. Je jure qu'avant la nuit, il fait partie du monde des morts. Et David met son épée, il monte sur ses chevaux, avec ses hommes, pour aller régler le compte à Naval à Carmélie. De quel roi fait cela David? David est roi d'Israël. Or celui qui fait un acte contre le roi d'Israël, il est Mored Malchut. Il est considéré comme Mored révolté contre le roi, passible de mort sans jugement. Hein? Alors attends. David est en route pour aller tuer Naval Carmeli, la femme de Naval Carmeli, c'est une grande sadekette. Elle s'appelait Abigail. C'était une des 7 prophétesses qu'a eu le peuple juif. Elle a su que David venait pour tuer. Elle est au courant de ce que Naval signifie même Sharon, d'accord? C'est quelque chose de quelqu'un de mauvais. Elle savait que son mari était un homme mauvais, sans cœur. Elle est au courant de cette histoire, ce qui s'est passé. Et elle a peur que David va venir tuer son mari. Alors elle prend quelques ânes avec de la nourriture pour la bande à David. Et elle est en route la nuit, elle descend la montagne, David est en train de monter la montagne, et se rend compte au milieu de la descente de la montagne. Elle lui montre une tache de sang, demande est-ce que c'est un sang qui est pur ou impur. David lui dit, on n'a pas le droit, ça veut que la nuit, on ne peut pas regarder, c'est la nuit, à la lumière de la lune, on ne peut pas voir, faut voir si c'est rouge foncé, rouge clair, pur, impur, et on ne peut pas vérifier la nuit. Elle lui répond, et on a le droit de faire d'Ilene Fachot, de juger un jugement de vie ou de mort la nuit. Alors, il dit aussi qu'on n'a pas le droit de juger un jugement de Nefashot, un jugement de vive ou de mort la nuit. Il répond, mais les morales de Malchut, ce n'est pas un jugement. Il est révolté contre un roi. On peut le tuer sans jugement. Elle lui répond, c'est vrai que tu as été sacré roi par Shmuel, mais personne n'est encore au courant que tu es roi. Tu n'es pas roi réel, tu es roi potentiel. Donc il n'est pas morel de Malchut. Et il discute comme ça. Elle le bénit, elle lui dit, et quand je serai veuve, alors souviens-toi de moi, je vais être ta femme. Chazal disent, comme une oie qui, elle baisse comme ça le cou, mais elle monte un peu comme ça vers la fin. Comme ça. Elle fait comme si elle se rabaisse, elle le bénit tout ça, mais elle lui fait un petit signe. Le jour où je serai libre, alors rappelle-toi de moi. David Amelech, une prophétesse, de quoi on parle là, de gens dans la rue, c'est une femme mariée. Femme mariée qui dit à la type, écoute, quand mon mari sera mort, alors coucou.
Maintenant, il aura l'intérêt à le tuer.
Ah, bravo. Elle agit avec finesse, comme une femme. Elle sait que David, il veut aller tuer son mari. Elle, en tant que femme, doit tout faire pour que son mari ait la vie sauve. Elle sait que David est un homme droit. Or, la Torah dit, « Ashochad yaver aine chachamim » Le shochad, le pot de vin, aveugle les sages. Si maintenant, David est désintéressé, cet homme-là, il mérite la mort, on va le tuer, je suis clean par rapport à Dieu. Mais si maintenant, oulala, on me dit que si je le tue, alors il y a, puis elle était pas mal, Abigail, alors elle va être ma femme, aïe, aïe, aïe. Est-ce que je suis vraiment maintenant tout à fait impartial dans mon jugement? Je peux pas.
Il y a un jugement.
Hein? Ok, alors ça, c'est quand on porte un serment, et il y a une bonne raison qui était pas prise en considération lorsqu'on a juré, on peut faire une atara. C'est ce qu'il a dû faire. On raconte qu'il y avait un grand rave, qui était après un grand rave en France aussi. À la base, il était un des rabbins de Novardok. C'est lui qui après a monté toutes les yeshivot de Novardok en France. Rav Gershon Liebman. Lui, dans sa jeunesse, donc c'était à yeshivot de Novardok, il était extrêmement pauvre. Et lui s'occupait de la caisse des élèves. La yeshiva, il y a la caisse de la yeshiva, qui est toujours vide. Et la caisse des élèves, c'est les élèves eux-mêmes, qui vont demander un peu par-ci, comme ça, de l'argent pour les gens, pour qu'au fait, ils aient des habits, quand quelqu'un se marie, on lui donne un petit cadeau, etc., de la yeshiva, pour aider les élèves eux-mêmes. Et lui avait des critères très très clairs, qui a droit à un costume, qui a droit à un chapeau camp, et qui a droit à une paire de chaussures, etc. Et je vois tout le monde savait, si quelqu'un voulait un costume pour la fête, il n'avait pas droit, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller et insulter le Rav Gershon, lui faire une méchanceté. C'était quasi certain, la prochaine fête, il recevait un costume. Pourquoi? Parce que tant que le Rav Liebman, il est impartial, il dit d'après les critères, t'as pas droit au costume, ok ça va. Mais maintenant, si je donne pas un costume, parce que toi tu m'as, même d'après les critères, mais à quel point je suis vraiment impartial maintenant que peut-être les gens vont croire, ou même moi, que je t'ai pas donné à cause de quoi? Parce que je t'en veux pour l'insulte que tu m'as fait, pour pas qu'il y ait de problème, tu reçois le costume.
Mais pourquoi il était obligé d'accepter les avances d'Abigail?
C'est-à-dire, je l'ai compris. Elle le rencontre au milieu de là.
Elle lui a dit, c'est...
elle l'a béni.
Souviens-toi de moi quand je serai veuve. Ouais. Il est obligé d'accepter.
Non, pas accepter. Il lui a dit ça, c'est tout. Terminé.
Oui, et lui pouvait tuer son mari et dire je suis un...
Non, mais du moment qu'il va maintenant tuer, lui, il sait que quand il tue, il reçoit en cadeau bonus la femme.
S'il veut,
mais c'est une possibilité. Donc c'est fini. Il ne sait plus est-ce que je suis vraiment maintenant les Shem Shaman complètement pur dans ce fait d'aller le tuer ou pas. J'ai peur. Et David ne l'a pas tué. Ça s'entend. À l'âge de 30 ans, donc 2 ans après qu'il a été sacré, Shaoul meurt dans la guerre contre les Philistins et le roi David devient roi d'Israël, plus potentiel mais réel. Et pendant 40 ans, il sera le roi d'Israël. Il part en guerre contre les Philistins. Dieu lui dit... Toujours tout quand Dieu lui dit, c'est par le pectoral, le Urim et Thummim du Kohen Gadol, par lequel on pouvait recevoir des messages de Dieu. Lui, tu iras te battre, mais ne va pas droit, fais, contourne. Tu vas aller, il y a des les arbres sauvages, tu vas aller te cacher dans les arbres sauvages, et quand tu entendras un vent qui passe entre les feuilles des arbres, tu te lèves et tu attaques. Et ces hommes vont en rampant comme ça, sous les arbres sauvages, et les Philistins s'approchent, comment sont plus qu'à 2 mètres de David et ses hommes. Les hommes disent à David, si nous on ne fait pas maintenant, ils vont nous tuer. On va se faire attraper. Et il répond à David, je préfère me faire tuer par les Philistins et mourir tzadik que d'enfreindre la parole de Dieu. Dieu a dit, lorsqu'on entendra le vent dans les feuilles des arbustes. On n'entend rien du tout, on reste couché. En cela, David a réparé quoi ? Il a la même épreuve qu'a eu Shaoul. Shaoul, le prophète Shmuel lui a dit, attends 7 jours pour amener l'Holocauste, quand tu pars en guerre contre les Philistins. Shaoul attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Il voit que les soldats commencent à faire pression, comme maintenant sur David. On ne peut pas, il faut partir en guerre, les Philistins sont ici, qu'est-ce qu'on fait ? Et Shaoul a cédé au peuple. Il a amené l'Holocauste, sacrifié l'Holocauste, sans que Shmuel soit là. À cause de cela, Shmuel lui a dit, terminé, tu n'as pas été d'après le désir de Dieu, Dieu va retirer la royauté, la donner à quelqu'un qui ira d'après son désir. David, la même épreuve, réussit. Ne va pas être vaincu par la pression de la population. Un roi doit être un roi, pas comme aujourd'hui, ce que le peuple veut, alors on suit. D'accord ? Un roi, c'est un roi. En cela, il a réussi. Et tout à coup, le vent se met à passer dans les feuilles des arbustes, et tous les soldats du roi David se lèvent, et ce sera une grande victoire du peuple juif contre les Philistins. Le roi David est dans son palais et décide de construire le temple. Il appelle Nathan le prophète, lui dit « Comment se fait que moi je suis dans un palais ?» Et l'arche sainte dans laquelle il y a les tables de la loi, dans une tente, c'est pas suffisamment honorifique. Nathan lui dit « C'est bon, tu peux y aller, vas-y. » Pendant la nuit, Dieu se dévoile au prophète Nathan, lui dit « Non, je veux pas que ce soit David. David a versé du sang, d'après mes ordres, mais néanmoins c'est un guerrier, ce ne sera pas lui qui pourra construire le temple, ce sera son fils Shlomo. Va vite lui dire à David, parce que David, quand il a une mitzvah en tête, c'est illico and presto. Nathan vient en pleine nuit, chez David lui dit « Stop, tu ne pourras pas construire le temple. » La chose se fait savoir que David aurait dû construire le temple, mais était empêché. Les ennemis de David se lèvent. C'est qui les ennemis de David ? Il y en a beaucoup. Ceux qui sont des partisans de Shaoul, des jaloux, ça ne manque pas. Tout Élim raconte toutes les histoires des ennemis de David. Se lèvent, disent, vont faire une manif en bas de la maison de David. Jusqu'à quand, David, tu vas vivre ? C'est pas qu'on est contre le fait que tu vives. Vive très longtemps. Mais tant que tu vis, il n'y a pas de temple. Nous, on veut le temple. En deux mots, on veut que tu crèves. Un homme normal, il entend ça, il est touché. Que dit le roi David ? Écrit les Tehilim. Samarti b'omrimli bet Hashem nelech. Je suis heureux quand on me dit, on va aller maintenant à la maison de Dieu, vers le temple. Que moi je crève ? Que je crève ? Qu'est-ce qui est celle que moi j'existe ? Ce que je veux, c'est une seule chose. Je veux Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. Si moi je dois disparaître de ce monde pour qu'il y ait le temple, alors que je disparaisse, je suis heureux qu'on me dise, on veut qu'il y ait le temple. Vous avez raison, venez Israël. La pureté du cœur du roi David. Transparent.
Ils ont quand même souhaité la mort du roi.
Ils ont souhaité la mort du roi, c'est vrai. Mais le roi David, il entend le message qui est dit. Quoi, vous voulez le temple ? Très bien. Et c'est vrai que pour que le temple soit construit, il faut que je disparaisse. Vous avez tout à fait raison. Qui je suis pour dire non, moi je reste et le temple va encore attendre ? Pur. Ça, la malchoute, dans toutes les midotes, toutes les voies d'action de Dieu, la plus basse s'appelle la malchoute, c'est la royauté. La royauté, qu'est-ce que c'est ? Celle qui reflète toutes les autres voies de conduite de Dieu. J'ai une fois expliqué ici. Quelqu'un, c'est un homme très juste. C'est un homme qui est très bon. C'est un très grand aussi gestionnaire. Aussi, il sait très bien comment diriger une armée. Mais, c'est un homme quelconque de la rue. C'est un rien. Alors, il est très juste, il est très bon, il est très calé, mais il ne sert à rien. On le met roi du pays, tout ce qu'il a en potentiel devient réel. La royauté, qu'est-ce que c'est? La royauté, c'est la possibilité de mettre en action tout ce que tu as déjà à l'intérieur. Donc en fait, c'est quoi? En soi, la royauté, c'est rien. Elle est transparente. Elle ne fait que refléter ce que tu as, toutes les choses supérieures qu'il y a. La royauté de Dieu, quand on parle du Shabbat, moi j'ai des choses très profondes, un jour on fera un cours là-dessus, qu'est-ce que la malchoute, la royauté de Dieu. Mais le roi David, qui est représentant de la royauté de Dieu, il doit être transparent. Il doit être là que pour refléter le désir de Dieu. Donc il dit, moi qui je suis? Je suis un reflet, je suis rien, transparent. Comme il dit à un autre endroit, le Télim, Anochi tolad velo ish, je suis un ver de terre et pas un homme. C'est pas des mots. Un type écrit à sa fiancée, je suis un ver de terre comme par rapport à toi, qui est mon étoile, ma belle, d'accord? C'est pas... Et, le lendemain, lui fait une grimace, il hurle, il dit, comme ver de terre, t'es pas très ver de terre. Le roi David, s'il dit ça, c'est vraiment ce qu'il pense. Toute sa vie, il a été rien moins qu'un fils d'une femme qui a fait l'adultère. Donc il sait que s'il a résisté et s'il a survécu, c'est grâce à Dieu. Il n'est là que pour refléter la présence de Dieu. C'est ça, Am Israël. Am Israël sur terre, nous sommes là que pour refléter. En cela, nous sommes grands. Mais si on dit, moi je suis grand parce que je suis, t'as rien du tout. Qui tu es, toi? On est grand à mesure où on n'est rien. On n'est que le reflet, le miroir d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, tu es immense. Un jour, le roi David parle à Dieu. Il lui demande, pourquoi est-ce qu'il est marqué dans la tefillah, dans la prière, on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, et le Dieu de Yaakov. Moi aussi, je veux qu'on dise. Je suis un reflet, je veux être un reflet de toi aussi. Le Dieu de David. Répond Dieu. Abraham et Yaakov ont eu des épreuves, toi pas. 28 ans qu'on le traite de bâtard, 2 ans qu'on veut le tuer sans cesse, ça c'est rien du tout. Abraham et Yaakov, qu'on dit qu'ils ont des épreuves, c'est encore plus haut. Que dit le roi David? C'est marqué aussi dans Tehilim 26. Bechaneni, je veux que tu m'éprouves moi aussi. Chose à ne jamais faire. Il ne faut jamais demander à Dieu des épreuves. Dieu sait très bien, c'est un très bon entraîneur. Les épreuves que tu vas passer pour être au top, tu les auras, t'en fais pas. Ne demande pas plus. David demande à être éprouvé. Un jour, il est dans son salon, il voit en face, la maison d'en face, une femme en train de prendre sa douche, Bathsheba, la femme d'un des généraux du roi David, Uria Achiti, Uria, le Hétéen, Achiti. Qui est au combat? C'est un juif, un général du roi David. D'origine. Il a dû se convertir au... D'accord. Mais un juif. Il a envie de boire un pot chez lui à la maison. Et tout finit très mal. Elle tombe enceinte du roi David. Le roi David, apprenant qu'elle est enceinte, envoie un message au front, amenez Uria, qu'il a une perme pour entrer à la maison, et tout le monde croit que c'est lui le papa. Uria rentre, ne va pas à la maison, vient directement au palais. Vous lui demandez, Sa Majesté, oui, t'as une perme, tu peux aller chez toi à la maison, un peu te calmer. Il dit, moi, me calmer à la maison, quoi. Mes copains sont sur le front en train de se battre, moi je vais à la maison, pas question. Je dors ici au palais sur les escaliers, le lendemain matin je pars directement, sans rentrer à la maison, je rentre au front. Ainsi dit, ainsi fait. Le roi David voit qu'il n'a pas le choix. Il envoie un message aux généraux, mettez Uria Hittite dans un endroit qui soit dangereux dans le combat, qui soit tué par l'ennemi. Les généraux vont avec Uria Hittite, se rapprochent d'une ville forte, vont sous la muraille, et tout à coup ils se retirent tous en courant, laissant Uria tout seul. Uria tout seul, pouf, il se fait tuer par l'ennemi, sous les ordres du roi David. Comme ça, il n'y aura pas de problème, le mari ne pourra pas se plaindre que sa femme est tombée enceinte du roi. Nathan Anavi vient chez le roi David, lui dit, il y a un cas terrible qui passait dans ton royaume. Il y avait un riche qui avait des troupeaux nombreux. Et un pauvre, son voisin, qui avait une petite brebis. Cette brebis habitait avec lui, dormait même dans sa maison, buvait même de sa coupe. Et un jour, le riche a reçu un invité. Et le riche s'est dit, c'est dommage que je prenne une brebis pour faire un méchoui à mon invité de mes troupeaux. Je vais prendre celle du pauvre. Il a pris celle du pauvre. La seule brebis du pauvre, il a égorgé pour son invité. Or, David dit, par ma vie, il mérite la mort. Et il payera 4 fois le prix de la brebis. Nathan Anabi lui dit, c'est toi. Dieu t'a donné tout ce qu'il fallait. Tu es roi d'Israël. Tu as des femmes. Dieu t'a sauvé de la main du roi Shaoul. T'a donné tout ce qu'un homme peut demander. Tu vas prendre la femme de ton prochain. La réaction de David, Khatati, j'ai péché. Au milieu du verset, il y a un trou blanc. Normalement, pour faire choix, qu'est-ce qu'on doit dire? On est Khatati, j'ai péché. Je fais ça et ça et ça. Dire qu'est-ce qu'on a fait. Regretter. Et prendre sur toi de ne plus jamais faire. Le grand du vilain, il dit que David, il a eu les sanglots qui se montaient dans. Il n'a même pas pu. Il a dit Khatati, il ne pouvait plus parler. Tu dis encore un mot, tu t'éclates en sanglots. Il y a un trou blanc. Dieu dit à Nathan, dis-lui que je pardonne. Suite du même verset, après le trou blanc, Dieu t'a pardonné. Tellement la choix de David était profonde. La Gemara, elle dit, celui qui dit que le roi David a péché ne peut que se tromper. C'est un grand classique, tout le monde dit, comment le roi David, il va faire une chose pareille, ta. Ce sont les ignorants qui posent cette question. Pourquoi? D'abord, c'est effectivement David avec péché avec une femme mariée. Alors il dit j'ai péché et Dieu lui dit ok c'est bon je te pardonne. Elle est chez toi à la maison. Une femme adultère, même dont le mari est décédé, une fois que quelqu'un a fait il a été avec une femme adultère, cette femme lui interdite toute l'histoire, terminée toute la vie, même que le mari il est mort. Cette femme est interdite. Elle est chez lui à la maison. Quoi? Dieu te pardonne. Ensuite, Bathsheba, le premier fils qui va naître, il va mourir. Elle retombe enceinte du roi David et va naître le roi Salomon. Et Nathan Hanavi est envoyé par Dieu pour le dire, appelez-le Yedidia. Yedidia, l'ami de Dieu. Ami de Dieu, l'enfant qui est issu d'une relation entre une femme interdite et le roi David, elle n'est pas interdite, elle est permise. Troisièmement, Nathan le prophète vient vers David, lui fait tout un exemple avec la brebis du pauvre, etc. Fais, dis-lui, t'as été avec une femme mariée, tu mérites la mort, termine, il faut lui faire un exemple pour qu'il comprenne. En fait, comme j'ai expliqué le cours passé, tous les soldats du roi David, quand ils partaient en guerre, avant de partir en guerre, donnaient un acte de divorce à leur femme. Pourquoi? De peur qu'ils soient portés disparus. Et si un mari a disparu, on n'a pas de témoignage qu'on a vu le corps mort, on ne sait pas s'il est peut-être il est vivant, il a été pris en prison ou je ne sais pas quoi, la femme ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce que peut-être elle est mariée. Le mari est vivant quelque part. Et si tu te maries avec elle, tu as des enfants, ce sont des bâtards, des mamzeries, mais c'est terminé. Pour parer ce problème extrêmement épineux, tous les soldats du roi David, avant de partir en guerre, donnaient un acte de divorce à leur femme. Donc Bathsheba est une femme permise. Ah, pourquoi Nathan Hanavi vient et lui fait tout l'exemple de la brebis du pauvre? Parce qu'au niveau du roi David, c'est pas, bien qu'au niveau du strict de la loi, il n'y a aucun péché, c'est pas le mieux du monde, on va dire. Au niveau du roi David, bien que cette femme est une femme permise, mais néanmoins, le mari est censé revenir après du combat. Pourquoi David, il envoie se faire tuer, ça aussi, il n'y a aucun péché là-dedans. Pourquoi? Parce que lorsque le Uriah Hitti a refusé de faire l'ordre que lui a donné le roi David, va chez toi à la maison, parce qu'en cela, il a pris mon rêve de malchoute. Il refuse un ordre du roi, d'après la loi, il est passible de mort. Donc, David, il est clean. Mais à son niveau du roi David, qui est, comme on le verra, la quatrième roue de la Merkava du chariot céleste, c'est pas adéquat. David le sait, il fait tchouva. Mais une tchouva toute sa vie. On peut dire la majorité du livre de Tehilim, c'est la tchouva du roi David. Un Tehilim qui est, on appelle la Mizmor HaTchouva, le Tehilim de la tchouva qu'on lit nous tous les jours dans la prière. Et c'est vraiment Le Rabbeinu Yonah a écrit le must sur la Tshuva, s'appelle Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah. C'est un livre qui a été écrit il y a 900 ans par Rabbeinu Yonah, un des grands d'Espagne, il y a 900 ans. Il est basé essentiellement sur ce Tehillim. Il prend chaque verset de ce Tehillim et explique comment on fait Tshuva à partir de ce. C'est vraiment l'enseignement majeur de comment faire Tshuva. Quel est ce Mizmor? Le Mizmor 51. Au chef des chants, psaume de David, lorsque le prophète Nathan fut venu le trouver à la suite de ses relations avec Bathsheba. Prends-moi en pitié, ô Dieu, dans la mesure de ta bonté, dans la grandeur de ta clémence, efface mes fautes. Lave-moi à grande eau de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes fautes et mon péché est sans cesse sous mes regards. Toute sa vie, sans cesse sous mes regards. Contre toi seul j'ai failli, je fais ce qui est mal à tes yeux, ainsi tu serais équitable dans ton arrêt, tu aurais le droit pour toi en me condamnant. Puisse me purifier avec l'hysope. L'hysope, c'est le ézov, c'est une herbe avec laquelle on purifie. Pour que je sois pur, puisses-tu me laver, que je sois plus blanc que neige. Puisses-tu me faire entendre des accents d'allégresse et de joie, afin que ces membres que tu as broyés retrouvent leur joie dans leur joyeux entrain. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes iniquités, etc., etc. Mizmor 51 des Tehillim. Lorsque le roi David donnera cours en public, cours de Torah, il parle, je ne sais pas moi, d'un sujet, Chotsuka. Une main se lève dans la salle. Sa Majesté, rappelez-moi s'il vous plaît, quelle est la sentence de quelqu'un qui a une relation adultère? Rien à voir avec le chiour, avec le cours. Mais pour embêter David, toute sa vie comme ça. C'est pas comme dans Bava Metzia. Le roi David a dit à Dieu, Dieu, tu sais que si maintenant quelqu'un vient et me coupe en petits morceaux, pas une goutte de sang va sortir. Tellement on me fait blanchir, tellement j'ai honte. Le sang, il rentre à l'intérieur, la chair devient comme s'il n'y a plus de sang. Tellement j'ai honte. Alors, lui répondait, le roi David, il dit, celui qui a une relation adultère, alors, s'il y a des témoignages, c'est mort par chenek, par étouffement. Mais celui qui fait honte à son prochain public n'a pas part au monde futur. Comme de l'assassinat. Quand est-ce qu'on saura qu'effectivement Dieu a pardonné à David? Pas durant sa vie. 9 ans après la mort du roi David, son fils, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, a construit le temple et veut faire entrer maintenant l'arche sainte dans le Saint des Saints. L'arche sainte est à l'extérieur, il faut rentrer dans le bâtiment, dans le temple. Les portails sont fermés. Et on veut faire rentrer l'arche sainte, ça ne rentre pas. Trop petit, trop étroit. On a mal calculé. Alors Salomon prie. Ouvrez-vous. Sou Shearim Rachechem. Levez-vous, portail. Les portails répondent pourquoi on devrait nous lever. Leur dit, le roi Salomon dit, pour Dieu. Que Dieu rentre. Rien ne se passe. Et on attend. Et tout le peuple est là. Il attend. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Le roi Salomon dit, Zocha lechasde David avdecha. Souviens-toi des actions de mon père David. Là, les portails se sont ouverts. 9 ans plus tard, tous les ennemis de David qui ont entendu que le roi Salomon dit pour l'honneur de mon père David, des actions qu'il a faites, alors que les portail du temple s'ouvre, alors c'est marqué que les ennemis de David ont eu leur face qui a noirci. Ils ont compris à quel point Dieu aimait le roi David. Mais durant sa vie, le pauvre David, il a encore sans cesse des gens, des détracteurs, des gens qui le rappellent, ses soi-disant mauvaises actions. Le pire moment, c'est quand son fils Avshalom, un des fils de David, Avshalom, fait un putsch militaire, renverse le roi David, et veut devenir roi à la place du roi. Le roi David s'enfuit pour ne pas être tué par son fils Avshalom, lui, sa famille, ses proches, et il grimpe pieds nus le mont des Oliviers, en train de pleurer que son propre fils lui fait ce putsch militaire. Et il monte, et il monte, et il monte, et il arrive en haut de la colline. Là-bas qui se trouve un des chefs du Sanhédrin. Shimir ben Gera, un homme, un des grands sages d'Israël, un homme respecté par tous, qui vient et qui le maudit. Lui jette des pierres, du sable, de la terre, en face de ses enfants, en face de ses servantes, en face de ses femmes, de ses hommes. Le maudit, Klala Nimretzet. Nimretzet, Chazal l'ont dit, Noef, adultère. Moavite, un Moavite n'a pas le droit de te marier avec une juive, Berklal. Rotseach, assassin. Tzorer, persécuteur. Toeva, horreur. Tous ces mots, il insulte. Général de David, Yoav ben Tsruya, sort son épée et dit à David, laisse-moi, je vais couper la tête à ce chien. David lui dit, pourquoi tu t'énerves? Dieu lui a dit, insulte. Chazal disent qu'à ce moment-là, le roi David est devenu la quatrième roue du chariot divin. Arrivé dans le moment de pression intense, ton propre fils te fait un putsch militaire. Tu es en train de te sauver maintenant avec ta famille pour avoir la vie sauve. Pieds nus, malheureux, viens maintenant, pas n'importe quel vaurien. Le grand chef du Sanhédrin te traite en public de ces noms-là. En plus, il mérite la mort, vraiment. Pour finir, il mourra. Il devra être puni. Il sera puni. Mais David ne veut pas qu'on fasse des choses comme ça rapidement parce qu'on est énervé. Pourquoi tu crois qu'il m'envoie ça? Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, Hachem Amarlo Kalel. Dieu lui a dit d'insulter. Transparent. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Je suis habitué depuis mon enfance. On m'a traité tous les noms, c'est Dieu. Après, Dieu m'a sauvé, m'a mis roi, c'est Dieu. Maintenant, on m'insulte, c'est Dieu. Pouche militaire, c'est Dieu, tout la main de Dieu. J'ai affaire avec lui. J'ai un compte à régler avec lui. Lui a un compte à régler avec Dieu. Il devra mourir. Ok, peut-être on va s'en occuper dans 20 ans. Avant de mourir, le roi David dira à son fils Shlomo, ça, Shimi ben Gera m'a insulté quand j'étais en train de fuir de la ville. Sache qu'il mérite la mort. Occupe-toi de lui. Mais moi, maintenant, je n'ai aucun compte à régler avec lui. Ce n'est pas des comptes à régler. Occupe-toi de lui, c'est parce que lui, il mérite comme ça pour arriver au Lamaba propre, c'est tout. C'est ça l'enseignement du roi David. Et regardez à quel point il est transparent. À quel point la seule chose qui l'importe, c'est Dieu. Dieu est encore Dieu. Chazal dit qu'en montant le mont des Oliviers, il dit, je vais faire Avodah Zara, l'idolâtrie. Le roi David va faire l'idolâtrie. Hushai Arki, c'était un des hommes de David, un grand sadique, il lui dit pourquoi? Le roi David dit, mais tu crois que les gens vont comprendre comment un roi qui est tellement sadique, je fais tout pour Dieu, les gens savent, mon fils me fait un putsch militaire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, Dieu, je n'ai pas pu croire en toi. Si les gens sont sadiques comme David, pour finir, qu'est-ce qui se ramasse sur la tête? C'est un putsch militaire de leur fils, ben mieux vaut qu'on aille... Qu'on quitte ta Torah, je vais faire Avodah Zara. Tout le monde dira, regarde ce David, c'est pas un sadique, c'est une ordure. Il fait Avodah Zara, il fait l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu l'a puni avec un push militaire de son fils. Dieu est juste. Kiddush Hashem. David est prêt à faire Avodah Zara, c'est-à-dire perdre toute sa vie. Avodah Zara, c'est le pire péché qu'il y a, pour qu'on n'ait pas accusé Dieu à tort, qu'on l'accuse à lui. Et que les gens ne disent pas, Dieu, où est sa justice? Pour finir, Hushai Arki veut lui prouver d'après la Torah que son fils Avshalom, vu qu'il est, il est fils d'une Yefat Toar, c'est marqué fils d'une Yefat Toar, donc c'est quelqu'un qui est Soré au Moré. C'est un révolté déjà à son essence, donc c'est normal, les gens sauront pourquoi il se pousse militaire, et il l'empêche de faire comme ça à Vodazar. Adonai-nous, notre maître, Amalek David, le roi David, serviteur de Dieu, Eved Hashem. Je vais finir juste avec un dernier Tehilim, qui est le Tehilim qu'on lit au mois des Loul et à Rosh Hashanah à la fin de la prière, qui est un peu le résumé de toute sa vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart qui protège ma vie. Qui redouterais-je? Quand des malfaiteurs m'approchent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis qui me guettent, ce sont eux qui bronchent et tombent. Qu'une armée prenne position contre moi, mon corps n'éprouve aucune crainte. Car la guerre fasse rage contre moi, même alors je garde ma confiance. Confiance en qui? En Dieu. C'est ça, Am Israël. Nous sommes le reflet de Dieu sur terre. on est en guerre contre nous sans cesse depuis 4000 ans. Si on a confiance en Dieu, eux disparaissent, nous on continue. C'est notre seule façon de résister. Et comme ça, Dieu fait qu'on devient comme le roi David. David Amalek, Chai Vekayam. N'est-ce pas? Il est vivant. C'est nous. Il y a une chose que je demande au Seigneur, que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler le splendeur de l'Éternel, de fréquenter son sanctuaire. La Yeshiva a étudié sa Torah. Car au jour du malheur, il m'abriterait sous son pavillon et me cacherait dans la retraite de sa tente, il me ferait monter sur un rocher. Quand ça va aller mal, c'est là qu'il faut aller, dans le sanctuaire de Dieu. La synagogue, la Yeshiva, prier, étudier sa Torah. Dès à présent, je porte le front haut en face des ennemis qui m'entourent. Je veux immoler dans sa demeure des sacrifices de triomphe. Je veux chanter, célébrer le Seigneur, etc., etc. Tout le Tehillim que je vous recommande beaucoup de lire. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.